Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Grand Ciel qui donne la parole à notre évêque Philippe Christori. Monseigneur, bonjour.
Bonjour Christophe.
Aujourd'hui, on va parler bioéthique. Le Comité Consultatif National d'Éthique, le CCNE, a rendu public mardi son avis sur la loi de bioéthique à venir. Il y a plusieurs volets, notamment la PMA, mais c'est peut-être pas le plus important, parce qu'il y a également quelque chose sur la recherche sur les embryons. Mais sur la PMA, parce qu'on a vu que ces annonces ont tout de suite suscité un tollé dans certains milieux catholiques, je pense à la Manif pour tous. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement?
Bon, d'abord, pour ceux qui nous écoutent, à qui je dis bonjour bien volontiers, la PMA, ça veut dire la procréation médicalement assistée. C'est-à-dire que dans la procréation d'un être humain, naturellement fait entre un homme et une femme dans leur acte sexuel, leur union des corps, là, la médecine, aujourd'hui, a les capacités techniques d'intervenir, notamment sur les spermatozoïdes et sur l'ovule féminin dans un laboratoire, si vous voulez, dans un tube à essai. Donc il y a une capacité technique nouvelle, de plus en plus raffinée, on peut dire, admirable presque, parce que c'est vraiment une science très précise, d'agir sur cet embryon, du coup, qui est issu de cette conception médicale, on peut dire. Voilà, hors de voilà. Alors, ça pose des questions nombreuses, parce que ça donne c'est vrai que ça donne une espérance à des couples qui sont infertiles, qui n'ont pas pu avoir d'enfants. La médecine essaie d'accompagner ces couples et de faire cette conception hors du corps féminin et de réimplanter ensuite un, mais souvent plusieurs embryons pour que ce couple ait un enfant. Donc la médecine, qui n'a pas de position morale, elle a une position technique, elle relègue la position morale à des gens comme effectivement ce comité d'éthique ou la loi civile simplement. La médecine essaie d'apporter une réponse à une souffrance. Et c'est sûr qu'un couple qui n'a pas d'enfant, alors qu'il a souhaité ses enfants en fondant ce foyer, ce couple trouve là une réponse. Il faut quand même savoir que cette procréation médicalement assistée n'apporte pas non plus un résultat systématique, loin s'en faut, et que ça laisse parfois des couples qui ont espéré dans cette technique un sentiment de déception, de tristesse conséquent. Donc ça, c'est l'approche. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on vient à dire pourquoi réserver cette technique à ces couples et non pas le proposer à toute femme qui a un souhait d'enfant, mais qui n'est pas dans la même situation. Ce ne sont pas des femmes stériles ou des femmes infertiles, ce sont des femmes qui ne souhaitent pas de relation avec un homme ou n'en ont pas parce qu'elles sont, seules, elles sont célibataires par exemple. Alors, bien sûr que ça pose des questions qui sont difficiles, parce que spontanément on aura envie de dire « mais c'est merveilleux, c'est une réponse à leur besoin d'amour ». Mais la question qui se pose derrière, c'est qui sert-on en premier ? Est-ce qu'on sert le besoin de ces adultes ? Est-ce qu'on sert d'abord l'enfant ? Et ce que dit l'Église, c'est que entre le faible et le fort, l'Église choisit le faible. Entre le malade et le bien portant, l'Église choisit le malade. Et on ne peut pas utiliser, entre guillemets, un être fragile et faible au profit d'abord d'un adulte. Voilà, c'est une question vraiment de vision. Oui, philosophique, anthropologique, difficile. Alors, est-ce que le projet parental, au fond, est la bonne approche ? Qu'on dit un projet parental. En fait, pour tout être humain a une dignité qui est inaliénable, qu'on ne peut pas toucher. Au fond, le droit d'un enfant, le droit fondamental d'un enfant, c'est tout de même d'avoir la joie d'être issu d'une conception entre un homme et une femme, conception par leur amour, conception par l'union de leur corps. Ça, c'est le droit de l'enfant. Et l'Église, effectivement, s'attache à ce droit de l'enfant, en premier.
Alors, il est également prévu, enfin, c'est en tout cas ce que préconise ce comité d'éthique, qu'on puisse accorder la PMA aux couples de femmes également qui veulent un enfant. Est-ce que ça pose un problème particulier à l'Église ?
Oui, ça pose un problème parce que, même si encore une fois, on peut comprendre qu'une femme qui est en relation avec une autre femme souhaite un enfant, l'enfant lui-même a des droits. Il est issu forcément d'un homme qui est donneur de spermatozoïdes, donc soit par voie naturelle, soit effectivement dans ses conceptions médicalement assistées. Mais cet enfant, il a le droit d'être issu et de connaître ses origines génétiques, savoir de qui il vient, de qui est son papa, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, qu'est-ce qu'il a vécu, qui il est. Et puis, il a aussi le droit d'être élevé par ces deux personnes différentes et qui sont complémentaires, que sont l'homme et la femme. Donc, bien sûr qu'on va dire beaucoup de situations sont des situations où l'enfant n'a qu'un parent, parce qu'il y a pu y avoir une séparation, ou la mort d'un parent, ou pensez après la guerre 14-18, combien d'hommes sont morts dans cette guerre et ont laissé des enfants avec leur seule mère. Mais ça, c'est une conséquence malheureuse d'une situation. Et on fait avec, comme on dit, au mieux. Mais de là à instituer officiellement la situation en la créant volontairement, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste pour l'enfant ? C'est une vraie question. Et puis ensuite, effectivement, va se poser la question, si on autorise cette PMA pour des femmes seules ou des femmes en couple, c'est la question du donneur, c'est-à-dire qui sera le donneur ? Est-ce qu'il aura sa place ou est-ce qu'il sera anonyme ? Est-ce qu'il sera un inconnu total pour l'enfant ? Et on sait en psychologie que la quête de ses origines est un besoin fort et que l'absence de connaissance de ses origines suscite chez un être humain, au fond, un manque qui l'atteint psychologiquement de manière conséquente. Donc, est-ce qu'il faut instituer cela publiquement, socialement, par une loi civile ? Nous ne le pensons pas.
Ouais. Alors, il existe déjà, et j'en croise à Chartres, des couples de femmes ayant des enfants. On ne peut pas douter, je veux dire, des qualités humaines de ces femmes.
Assurément, toutes ces personnes, toute personne, à moins d'avoir été tellement blessé qu'on n'y arrive pas, mais capable d'amour. Donc c'est encore une fois, c'est pas l'amour, c'est pas le sentiment qui est mis en cause. C'est ce droit de l'enfant d'abord d'être. Et puis ensuite, ces embryons sont souvent produits en laboratoire en nombre, c'est-à-dire qu'on va en produire plusieurs, on va en inséminer plusieurs pour que au moins un ou deux, comme on dit, nidifient et grandissent dans le sein maternel. Mais les embryons surnuméraires, qu'est-ce qu'on en fait ? Ils sont déjà là, c'est une réalité humaine, vivante. Est-ce qu'on les détruit ? Est-ce qu'on s'en sert comme du matériel de laboratoire, ce qui n'est pas conforme à leur dignité ? Est-ce qu'on les donne à d'autres gens ? C'est une vraie question. Avec possiblement le risque que des gens d'une même filiation ne se connaissent même pas. Donc c'est complexe comme question.
Alors le comité propose, et c'est le législateur qui dispose bien évidemment, le temps qu'il le fasse, est-ce que des mouvements sont à prévoir, comme il y en a eu pour le mariage dit homosexuel ? Est-ce que...
Non mais là-dessus, c'est pas à moi, évêque, de me prononcer, au sens que en France, il y a des citoyens, hommes et femmes. D'abord, je les invite vraiment à lire, à s'intéresser à cette question qui a une forme de gravité, enfin qui est importante pour l'avenir de la société, à s'informer de ce que ça veut dire, de ce que ça implique sur la vision de l'homme, comment est-ce que la société veut avancer en ce sens. Et puis chacun, en conscience, prendra fera les choix d'exprimer cela. Alors moi, je souhaite qu'il y ait un débat, je souhaite qu'on puisse parler, je souhaite que des voix divergentes soient entendues et respectées, parce que c'est un sujet trop important pour juste conclure le débat par une sorte d'affirmation affective, comme on peut en lire dans la presse, par exemple, et qui semble, du coup, clore le débat à toute capacité à entendre autre chose.
Ouais. Affaire à suivre, donc.
Affaire à suivre, oui, difficile.
Monsieur, il nous reste, on n'a pas assez du temps, évidemment, mais cette question est extrêmement importante.
Je suis un peu bavard, c'est pour ça aussi.
C'est très bien pour moi. Continuez de l'être. Il nous reste 2 minutes. Peut-être parler. Il y a eu des ordinations diaconales le samedi 22, puis une confirmation.
J'ai fait beaucoup de choses. J'ai pu aller d'abord effectivement à Nogent, le Rotrou, pour confirmer 8 jeunes et un adulte. C'était très très agréable à Saint-Laurent. Une belle célébration dimanche dernier. Puis je suis allé ensuite on a donc Monseigneur Jérôme Beau qui a été installé évêque de Bourges. Et Bourges est dans la même province. Ecclésiastique pour nous, c'est un beau rassemblement, une cathédrale de Bourges magnifique et pleine de monde. Malheureusement, il pleuvait beaucoup, donc c'était moins facile pour se retrouver après. En revenant, première rencontre étonnante, j'ai failli taper une biche qui a dû passer, je pense, à 1 mètre de mon phare droit, donc léger, que découvert une réalité de la nature ici, un peu plus, mais je ne l'ai pas touché. Et puis ensuite, effectivement, on a eu ces 2 nouveaux diacres, donc Claude Herriard et Arlinda Gomez. C'était beaucoup de joie. Leurs épouses, donc Daniel et Isabelle, étaient bien sûr là avec leur famille. Beaucoup de joie de voir ces hommes accueillir ce don de Dieu pour le service de leur paroisse, de l'Église en général, pour signifier la présence de Jésus-Christ, serviteur des hommes. En tout cas, je compte vraiment sur eux et j'aspire à ce que dans l'avenir, d'autres hommes soient interpellés pour ce beau service du diaconat.
Il nous reste un petit peu de temps. Votre anecdote ?
Alors, anecdote, oui, j'ai pensé. Oui, alors j'ai fait une petite rencontre amusante. J'ai rencontré des délégués d'un évêque qui s'appelle Monseigneur Vincent, qui est en fait métropolite de Tachkent et de d'Ouzbékistan. Alors, sur une carte de l'Europe centrale, ça fait un peu loin, c'est un peu perdu. C'est entre le monde chinois, le monde un peu mongol, le monde musulman, un petit peu bouddhiste, en dessous de la Russie. Ça dépend du patriarcat de Moscou. Et ils sont venus me voir parce que pour eux, le voile de la Vierge Marie, cette relique merveilleuse que nous gardons ici à Chartres depuis le 9e siècle, eh bien pour eux, c'est le signe de la protection de Marie, le voile qui protège. Et ils m'ont expliqué que dans ces pays si lointains, il y a une très grande vénération de ce voile. Et donc, ils connaissent tout Chartres. Et qu'ils viennent en pèlerinage ici. Cet évêque était venu ici, donc là, il a envoyé une délégation. Avec comme objectif, ils espèrent pouvoir un jour avoir un petit bout de la relique pour un monastère qui est important chez eux. Donc, c'est une belle rencontre
très belle que j'ai ici. Très belle histoire. Merci.
Le monde entier passe à Chartres.
Merci beaucoup, Monseigneur Christori. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.
Avec joie.
C'était Simon qui était en régie. Restez à l'écoute des 2 programmes de Radio Grand Ciel. Bien évidemment, la radio qui rapproche les hommes.
Toi ne mourra jamais. Tu es la résurrection, tu es la vie. En toi, vie éternelle. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux ceux qui l'adorent.